Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, Nicolas Lost au micro pour partager l'émission Crescendo qui est votre émission sur la musique ou plutôt les musiques qu'elles soient récentes, anciennes, baroques, romantiques, moyenâgeuses. Et pour ce faire, chaque mois, je vous invite à partir à la rencontre d'un compositeur pour se familiariser un peu plus avec sa vie, son époque, son parcours, son œuvre, qui vient s'inscrire, son œuvre, dans cette longue marche en avant de l'histoire de la musique. Et aujourd'hui, pour notre émission ce jour, je vous emmène dans la République de Venise du XVIIe siècle, suivre les pas de ce jeune homme qui décida de délaisser l'entreprise familiale florissante et lucrative pour se consacrer entièrement à la musique. Son nom vous est forcément familier lorsque l'on cite, lorsqu'on évoque son mouvement le plus connu, le plus célèbre, c'est-à-dire l'Adagio, et on pense tout de suite à lui. Mais pourtant, cet Adagio célèbre n'est pas de sa plume. Une énigme à suivre aujourd'hui dans notre émission Crescendo consacrée au musicien italien né à Venise, Albinoni. Émission consacrée aujourd'hui à Albinoni. Et pour débuter, nous avons entendu un extrait d'un très beau concerto en si bémol majeur pour trompette. Et ce concerto s'intitule Saint-Marc et dédié certainement à l'évangéliste dont les reliques sont entreposées dans la basilique de la place Saint-Marc en plein milieu de cette ville éternelle, la ville de Venise. Donc nous voici dans cette République de Venise qui au XVIIe siècle est au fait de sa gloire. L'art, la culture, la peinture et la musique fleurissent dans chaque maison et chaque palais religieux. Et à cette époque, en Italie, le luth s'efface peu à peu pour céder la place au clavecin et surtout le violon. Le violon triomphe grâce à l'ingéniosité de ses compositeurs et grâce à la fougue de ses interprètes. Et la famille Albinoni gère très bien à cette époque l'entreprise familiale de fabrique et de vente de papier. Et c'est en juin en juin 1671, que Tommaso, le jeune Tommaso Albinoni, voit le jour dans la cité des Doges. Il est l'aîné de la famille, donc l'héritier destiné à reprendre l'entreprise familiale, et le jeune Tommaso grandit dans un milieu favorisé, avec des enseignants particuliers qui lui apportent éducation et soutien scolaire, et eh bien, sa famille étant bien implantée à Venise, il rencontre les grandes familles, mais aussi il rencontre régulièrement le clergé qui passe commande auprès de l'entreprise de papier pour imprimer ses missels, ses graduels, ses livres de chant et de musique. Et Tommaso Albinoni fait la demande de prendre des cours de musique et il apprend ainsi le violon et le chant, toujours avec des professeurs particuliers. Alors, il ne suit pas un véritable cursus musical, mais il est à très bonne école avec des professeurs de qualité. Mais son père n'oublie pas pour autant d'initier son jeune fils, de l'initier au savoir-faire de la commercialisation du papier. Mais Tommaso n'oublie pas sa passion pour le violon. Et il commence à faire ses premiers pas dans la composition. Au moins, il n'a pas la contrainte matérielle en disposant de quantités de feuilles de papier musiqué. C'est en 1694, alors qu'il a 22 ans, que Tommaso Albinoni publie ses 12 sonates en trio qui sont dédiées au cardinal de Venise, le cardinal Ottoboni. Et c'est notre deuxième pause musicale. Nous allons écouter une introduction de cette sonate en trio, la sonate numéro 1, en ré mineur, donc publiée en 1694 à Venise. C'était un extrait de la première sonate en trio, en ré mineur, publiée en 1694 à Venise. C'était le mouvement lent de cette sonate, écrite par Tommaso Albinoni, tout jeune musicien, tout jeune compositeur, âgé alors de 22 ans. Et Tommaso Albinoni partage alors sa vie entre la négoce du papier, aux côtés de son père. Il apprend le métier, et puis il est partagé également avec sa passion pour la musique. Son violon n'est jamais très loin. Il dispose d'ailleurs d'un instrument éclatant de matériaux, de timbres et de sonorités, fabriqué par un luthier renommé. Tommaso Albinoni s'intéresse de plus en plus à la voix, au timbre vocal, et il fréquente régulièrement l'opéra, tant et si bien, qu'il épousera une chanteuse lyrique. Elle se nommait Margarita Raimondi. Il épouse Margarita en 1705. Et puis vient l'année 1709. Tommaso Albinoni a 38 ans. Et c'est une année importante car c'est l'heure du choix. Son père vient de mourir et il lui revient en tant que aîné de la fratrie de prendre la direction de la fabrique de papier. Et il ne choisira pas cette option, il choisira la plume pour écrire les notes de musique et il abandonne l'entreprise familiale à ses deux frères cadets. Albinoni quitte son statut d'amateur de musique pour devenir professeur, un professeur recherché, et il aurait même dirigé une école en tant que maître de chant. En 1720, la renommée de Tommaso Albinoni est à son sommet, car il compose frénétiquement et on compte pas moins de 80 opéras qui seront applaudis en Italie, mais également hors des frontières de l'Italie, notamment dans les cours germaniques. Les princes de Germanie sont friands des artistes italiens et ainsi on recense régulièrement le nom d'Albinoni, notamment à la cour de Munich et surtout à la cour de Dresde. Outre l'opéra, eh bien, il aborde la musique religieuse avec des cantates sacrées, puis avec quelques messes et motets. Et c'est sur ces pages d'opéra que nous allons profiter de notre prochaine escale musicale avec un extrait de l'opéra d'Albinoni qui se nomme Serenetta Cinete et l'extrait s'intitule l'aria chantée par une soprano s'intitule O qual di tema. C'était Albinoni, compositeur de musique d'opéra avec ce très bel aria pour soprano, extrait de son opéra Serenetta Clemene, et l'aria s'intitulait O qual di tema. Et Albinoni eh bien, s'exporte de plus en plus, comme je vous le disais, dans les cours germaniques, où les princes d'Allemagne lui offrent vraiment les moyens eh bien, d'exprimer son art, de composer et puis de donner en public ses opéras. Alors Albinoni aura été un compositeur prolifique, sans égaler toutefois son concitoyen et cadet de 7 ans, Antonio Vivaldi, et pourtant même Jean-Sébastien Bach s'est intéressé à son travail, aux compositions de Albinoni, puisque Bach utilisera des thèmes de Albinoni pour 3 de ses fugues. Alors, on sait peu de choses sur la fin de la vie de Tommaso Albinoni. Sa mort est fixée à l'année 1751. Et ce qui est curieux, c'est que dans les archives historiques, il y a une absence quasi totale de documents concernant les 10 dernières années de la vie d'Albinoni. Alors, est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il était en retrait? Ou peut-être était-il mort bien avant 1751? On ne le saura jamais. Mais avec la mort de Tommaso Albinoni en 1751, eh bien, se referme là le premier épisode de la vie d'Albinoni. Mais alors vous me direz, quid de son fameux adagio que je n'ai guère évoqué pour l'instant dans cette émission? Eh bien, pour parler et pour évoquer l'adagio, le fameux adagio d'Albinoni, eh bien, pour cela, il faut ouvrir le deuxième épisode et faire un saut de 2 siècles pour rencontrer un musicologue de nationalité italienne du nom de Remo Giazzotto et qui, dans les années 1930, Remo Giazzotto s'intéresse beaucoup eh bien, recensé les œuvres de Tommaso Albinoni dans le but d'établir un catalogue complet. Son travail dans les années 1930, effréné par le climat difficile d'alors, des années de guerre, mais Giazzotto prend espoir et il apprend que bien c'est la ville de Dresde en Allemagne qui recense et compte dans ses archives pas moins de 70 manuscrits d'opéra signés de la main d'Albinoni. Et hélas, eh bien, viendra une terrible catastrophe dans la ville de Dresde qui sera bombardée par les Alliés en 1945 et hélas, la ville sera détruite à près de 80%. 3900 tonnes de bombes s'abattront sur la ville de Dresde et feront des dizaines de milliers de victimes, transformant la fameuse bibliothèque où sont conservés ces 70 manuscrits d'opéra signés Albinoni, eh bien, transformant cette fameuse bibliothèque en cendres, hélas. Et Giazzotto, alors, essaiera bien de se précipiter. Il ira quand même dans la ville de Dresde. Il réussira à savoir où était le bâtiment des archives. Alors, il mènera des recherches au milieu quand même de morceaux de papier qui erraient et au miracle, eh bien, il dira qu'il aura sauvé un fragment de manuscrit contenant une sonate d'église et dont le mouvement adagio qu'il aura réussi à sauver des cendres, dont le mouvement adagio fait ceci. C'était donc un extrait de ce fameux adagio « Sauver des cendres, sauver des décombres des archives de la ville de Dresde » qui a été bombardée, cette ville, à 80% en 1945, bombardée par les Alliés. Et alors René Renaud Giazzotto, qui a fait ses recherches et qui s'intéresse vraiment à la vie d'Albinoni, eh bien, donnera peu de détails sur le contenu de ce parchemin. Alors il gardera pour lui ce fragment de manuscrit, il refusera de le montrer à la presse et de retour en Italie, il recopiera ce mouvement adagio au propre. Alors rappelons que adagio c'est un tempi, c'est une indication de tempo musical et ce tempo se situe entre 56 et 76 pulsations par minute et adagio vient donc de l'italien qui veut dire à l'aise, donc calme. Et Gazzotto, eh bien, intitule donc ce mouvement adagio en sol mineur pour cordes et orgue. Et l'œuvre, cette œuvre est si intime, si harmonieuse, si belle, qu'elle révélera au grand public le nom de Albinoni. Et la partition sera éditée en 1958 par les prestigieuses éditions musicales Ricordi sous la référence de Adagio d'Albinoni. Mission réussie pour Reno Gazzotto qui meurt en 1998, donc tout récemment. Il meurt dans le plus grand anonymat en ayant toujours refusé, jusqu'à son dernier souffle, en ayant toujours refusé de montrer son mystérieux fragment de partition et pour cause, eh bien, aujourd'hui, cet Adagio d'Albinoni, il est entré au panthéon des grandes pièces de la musique classique et eh bien à ce titre la pièce a reçu de nombreuses et pléthore de adaptations et interprétations diverses, parfois même improbables. Alors on retrouve cet adagio forme jazzy, forme pop, forme rock, à la flûte de Pan, ou même j'ai également écouté une adaptation en forme de flamenco. Alors aujourd'hui, eh bien, cette pièce a été destituée des œuvres de Albinoni et plutôt classée aux œuvres de Gazzotto. Et cette pièce a été donc officiellement rattribuée à la signature de Gazzotto. Et à ce titre, eh bien, elle est rentrée de nouveau dans le domaine privé. Elle sera accessible au domaine public simplement en 2068. L'ambition et le souhait de Remo Gazzotto était de faire connaître le nom d'Albinoni, objectif réussi, mais on peut aussi regretter eh bien que cet adagio faussement attribué fasse de l'ombre aux autres trésors oubliés du compositeur. Alors, beaucoup de ces manuscrits ont péri dans la ville de Dresde et on a réussi à sauver quelques arias qui étaient en copie de ci, de là, dans certaines bibliothèques d'Italie. Et c'est dommage parce que eh bien beaucoup de ces œuvres sont passées inaperçues et mériteraient vraiment d'être reconnues car elles sont d'une grande qualité d'écriture. Sinon, citons par exemple eh bien dans les œuvres d'Albinoni des concertos pour hautbois, des concertos pour violon et des sonates d'église. Donc il serait dommage, chers auditeurs, de s'arrêter simplement à ce pastiche, même s'il est de qualité. Cela ne serait pas le souhait de Gazzotto lui-même. Donc n'hésitez pas à bien partir à la découverte sonore d'Albinoni. En fermant les yeux, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez dans la ville sérénissime de Venise. Voilà. Je vous propose eh bien, de nous quitter sur une œuvre vraiment attribuée à Albinoni, qui est une symphonie à 5, c'est-à-dire pour deux violons, alto, luth et violoncelle. Merci de votre écoute fidèle. Simon, en face de moi, la technique, vous permettra de réécouter cette émission crescendo en visitant notre excellent site, riche en archives sonores et en interactivité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Radio Grand Ciel pour nous réécouter. Et je vous laisse, chers auditeurs, avec cette symphonie d'Albinoni. À très bientôt.